Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Après un recul de 2 ans, le ministre de l'Intérieur a annoncé en février que les actes d'antisémitisme répertoriés, c'est-à-dire les insultes, les menaces, les dégradations de biens, les agressions et les homicides, avaient progressé en France en 2018 de 74%. S'il est vrai que le niveau d'antisémitisme est un bon baromètre de l'état d'une société, comme l'avance justement un éditorial du Monde, autant dire que notre société se porte mal. Cette haine, qui n'a rien d'ordinaire, se déchaîne sur les murs, les devantures et les réseaux sociaux, puis se glisse dans les actes de manière ignoble, inacceptable et pourtant de plus en plus banalisée. L'association Langage de Femmes a été créée en juillet 2017 pour répondre à la question « Que faire ? Quoi faire ? Comment faire pour lutter contre ces situations d'intolérance, de racisme, d'antisémitisme ? Comment faire pour réconcilier la société française ?» et pour encadrer aussi, cette association a été créée aussi pour ça, pour encadrer une réflexion et proposer des actions concrètes contre l'oubli et pour la transmission de la mémoire. Samia Essaba est prof d'anglais au lycée Théodore Monod à Noisy-le-Sec et c'est elle la présidente, avec Aude de Thuin qui, elle, a le rôle de présidente d'honneur. Cette dernière est connue entre autres pour avoir fondé le Women's Forum et pour être une chef d'entreprise et fameuse entrepreneuse. Anne-Marie Refkolewski, elle, a dirigé la Fondation pour la mémoire de la Shoah aux côtés de Simone Veil et travaillé au rapprochement entre les juifs et les musulmans et c'est la marraine de cette association qui ne compte pas que des célébrités. Elle rassemble des femmes remarquables en tout genre, des journalistes, des profs, des femmes de ménage, des retraitées, des écrivaines, des assistantes maternelles, des secrétaires, des avocates, des étudiantes, des artistes, des élèves, des médecins de tous âges, toute culture, toute génération, issues bien sûr de milieux différents, de quartiers fort divers et de toutes les confessions. Il y a dans Les Pieds sur Terre, nous racontions un voyage à Auschwitz organisé par elle le 17 février 2019 avec Ginette Kolinka, qui est un des derniers témoins des camps de la mort, et de nombreuses femmes de l'association. Tout de suite, on regarde de plus près ce qui se passe avant et après ce genre d'initiative et on se demande à quoi elles servent, à qui elles sont destinées et si elles sont vraiment utiles. Un reportage d'Alice Mello.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Colette Cohen, j'ai 66 ans. Je suis juive, fille de déportés. Ma mère a été déportée à Auschwitz. L'essentiel de ma famille a été assassiné dans les camps. Ma mère, plutôt que de me raconter le petit chaperon rouge, me racontait Auschwitz, me racontait le ghetto, me racontait les grandes marches, me racontait Térésine. Mes parents étaient polonais d'origine et donc moi je suis née en France, mais eux étaient l'un et l'autre nés en Pologne. Et donc, au moment où le ghetto de Lodz a été fermé, les Juifs qui étaient dans ce ghetto ont été amenés dans les wagons de bestiaux à Auschwitz. Et maman, qui avait une vingtaine d'années à ce moment-là, était au ghetto de Lodz avec son père et sa mère, auxquels elle était totalement collée, attachée, accrochée. Et ils étaient tous les trois dans un état, d'après ce qu'elle me racontait, de dénutrition, de désespoir absolu. Ils pensaient vraiment qu'ils avaient touché le fond de l'horreur, le fond du désespoir et que rien ne pourrait jamais être pire. Et quand le ghetto a été fermé et qu'ils ont été amenés dans les trains pour aller ailleurs, ils se sont dit « enfin, ça va être mieux. Enfin, on vient nous chercher pour nous amener vers quelque chose de meilleur ». Et donc, ils sont partis tous les trois à Auschwitz. Et quand on a ouvert le wagon de bestiaux et que ma mère, mon grand-père et ma grand-mère sont descendus du wagon, ma mère me racontait de manière récurrente, permanente, que ma grand-mère avait compris ce qui se passait quand elle est arrivée à la Judenrampe elle a vu qu'il y avait des personnes qui allaient à droite et d'autres personnes qui allaient à gauche. Et elle s'est tournée vers ma mère et elle lui a dit « Surtout, ne pleure pas, c'est normal que les parents partent avant les enfants. » Et donc voilà le genre de choses que ma mère me racontait quand j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et ensuite qu'elle avait été emmenée dans une baraque avec d'autres femmes et que le soir même, une capot est venue les chercher en leur disant « Vous voyez, là c'est vos enfants et vos parents qui sont en train de brûler, qui sont en train de cramer parce qu'ils sont juifs et vous, ça vous arrivera après ». Et ma mère a été déportée, c'était l'été, il faisait très chaud. On leur donnait évidemment pas à manger, elles étaient toutes affamées. Elle me racontait qu'un des plaisirs des Allemands, des nazis, c'était d'apporter un petit récipient avec du miel sous la canicule. Et comme elles étaient affamées, elles se jetaient toutes, elles se bagarraient pour... elles se jetaient sur le miel... Et après, elles étaient mortes de soif. Et à ce moment-là, on leur apportait un petit seau d'eau avec très peu d'eau. Et là, elles se battaient pour essayer d'avoir un petit peu d'eau. L'eau tombait dans la terre et elles lapaient l'eau. Donc voilà, voilà le genre de choses que maman me racontait qui était insupportable et qui m'a... amené à grandir avec un sentiment de honte terrible. Je ne vivais que l'humiliation que maman avait vécue, qu'on lui avait fait vivre. Et quand elle a disparu, en 2010, j'ai considéré que c'était à moi de continuer la transmission de la mémoire de la Shoah en son nom. Un des gros, gros problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est que les survivantes sont en train de disparaître. Comment témoigner? Comment transmettre? Parce que quand tous ces survivants allaient dans les écoles et racontaient aux enfants, il est évident que ça transformait les enfants. C'est un travail absolument essentiel, mais voilà, malheureusement, ils ne vont plus être là. Comment les choses vont se passer? Il faut trouver de nouveaux passeurs. Il faut trouver de nouveaux moyens de transmettre. J'ai été avocate pendant une petite dizaine d'années et ensuite j'ai été l'essentiel de mon existence professionnelle productrice de spectacles. Et quand j'ai vendu ma société de production, il y a un petit peu moins de 2 ans, j'ai réfléchi à l'après. Et l'après pour moi a été tout de suite évident, c'était m'impliquer dans une association pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, les préjugés, l'intolérance, la haine entre les individus. J'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes extraordinaires, et notamment Anne-Marie Revkolevski, à qui, au moment où j'ai vendu ma structure, j'ai fait part de mon désir de m'engager. Et elle m'a fait rencontrer Samia Essaba et Suzanne Nakache en me disant que une association venait de se créer, c'était en avril 2018. Et elle m'a fait rencontrer ces deux femmes. Et je dois dire que d'emblée, j'ai senti que j'étais dans ma maison. C'était inutile pour moi d'aller plus loin. J'avais trouvé l'endroit où j'avais envie de me battre. Ensuite, c'est pas anecdotique, mais notre fils est marié à une jeune femme musulmane, à moitié palestinienne. Nous sommes très heureux et très très fiers d'avoir des petits-enfants à moitié juifs et à moitié musulmans. Je dirais pas que c'est la raison de mon combat, puisque ce combat, je le menais bien avant, et je pense que au contraire, le fait d'avoir des enfants moitié juifs et moitié musulmans, c'est d'une certaine manière le résultat de ce combat. Et je crois que on n'est pas obligé de s'aimer. c'est pas l'objectif, on n'est pas naïf, hein. Il s'agit pas tous d'être amis, on n'est pas obligés tous de se marier les uns avec les autres, mais en tous les cas, il faut réussir à s'entendre pour se respecter et considérer que l'autre vaut autant que vous.
Et justement, pourquoi Langage de Femme, ça permet ça, ce que vous dites, de créer de la rencontre pour créer au moins du respect ?
Travailler avec des femmes a été déjà la première démarche. Ensuite, l'idée est comment lutter contre racisme, antisémitisme. Et là, c'est vrai que c'est la vraie question. C'est la vraie question, c'est trouver les moyens de rencontrer des femmes, non pas qui sont déjà des femmes acquises, mais des femmes qui ne le sont pas, pour essayer de les convaincre de venir écouter, de venir parler, de venir échanger et d'accepter effectivement de changer leur regard sur l'autre. D'ailleurs, un des moments importants de l'association Langage de Femmes, c'est le voyage à Auschwitz. Moi, je ne peux pas aller à Auschwitz. J'ai essayé cette année d'aller à Auschwitz. C'est une question que je m'étais posée à titre personnel depuis des années et j'avais résolu la question en décidant que je ne pouvais pas aller à Auschwitz, que c'était quelque chose, c'était une démarche vraiment que je n'étais pas en mesure d'assumer. Et puis, cette année, étant vice-présidente de l'association, et puis je me disais aussi que ça avait un caractère pédagogique à l'égard des autres femmes de l'association, que c'était important, etc. Je m'étais résolue, finalement, après un débat intérieur extrêmement compliqué, à aller à Auschwitz. Et 5 jours avant le départ, je suis tombée sur le visage et je me suis explosé le nez et le menton. Et une de mes amies très chères est venue me voir à l'issue de l'accident et m'a dit « Écoute, tu dois écouter ton corps, c'est un signe, ne va pas à Auschwitz ». Et je ne suis pas allée à Auschwitz et je crois que je n'irai pas à Auschwitz. Voilà. Et ce que nous espérons, c'est que ces femmes qui sont venues à Auschwitz vont réunir autour d'elles d'autres femmes qui ne connaissent pas la Shoah ou qui connaissent la Shoah, qui sont allées à Auschwitz ou qui ne sont pas allées à Auschwitz, et elles vont raconter. Donc elles vont transmettre. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'elles deviennent des passeuses.
Alors moi, je m'appelle Sabrina Essien, j'ai 17 ans, j'habite à Bondy dans le 93-140. Actuellement, je suis en terminale gestion administration éco-droit dans un lycée professionnel à Noisy-le-Sec. Et voilà. Alors, on a été à l'aéroport, il y a eu un trajet de 2 heures et on est descendu à Auschwitz. Alors, on a été accueillis très chaleureusement, on a commencé à marcher, on avait un guide avec nous pour visiter les camps de concentration. Là, par contre, là, ça a été vraiment le... Enfin, ça a été un choc, mais une grosse gifle, parce que moi, personnellement, je pensais vraiment pas que les personnes juives avaient vécu tout ça dans ces camps-là. On est commencé à rentrer dans les chambres à gaz. Ça a été... Je sais pas comment vous expliquer, j'avais vraiment pas du tout aucun mot. Ce qu'on a vu, il y avait des cheveux, des habits, des lunettes cassées, des nattes tressées, des attelles, voilà quoi. Il y avait des vêtements, des casseroles, des fourchettes, des cuillères, tout ce qui restait quoi, tout le reste. Et franchement, c'était choquant, bouleversant. Dès que je suis arrivée en France, j'ai direct raconté ça à ma mère, direct. Elle m'a dit c'est pas possible. J'ai dit si, c'est vrai, on a vu avec nos propres yeux. Et je suis même allée sur Google pour lui montrer et tout. Elle m'a dit, comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu faire cette torture à ces pauvres personnes? Elles ne méritaient pas, quoi.
Et ta maman, elle connaissait pas non plus cette histoire?
Non, ma mère, elle est illettrée. Elle ne sait ni écrire, ni parler un alphabet, bien sûr. Mais j'ai dû lui expliquer à ma façon et tout. Et juste mon récit, elle a eu de la peine. J'ai raconté à ma sœur, à mes camarades de classe aussi. Bah, ils étaient choqués quand je leur ai dit qu'il y avait des tresses. Ils m'ont dit, non, tu manges. J'ai dit, si, si. Et la prof, elle était là pour affirmer cela, donc elle a dit si. Tout le monde doit le savoir, malgré l'âge. À partir du collège, tout le monde doit savoir. Parce que dans mon cursus scolaire, on m'a jamais parlé de la Shoah. Et en fait, je viens juste de l'apprendre, quoi. C'est juste cette année-là que j'ai commencé à découvrir ce que c'était. Et, comment vous dire, je suis allée en Pologne, j'ai vu avec mes propres yeux, je me suis dit, c'est pas du mensonge, j'y raconte pas n'importe quoi, c'est vraiment vrai ce qui s'est passé. Bah, jusqu'à présent, je m'en remets pas. C'est un truc de fou, on te tue parce que t'es juif, quoi. C'est méprisant, rabaissant, c'est comme si, moi, personnellement, qui est de confession musulmane, on me tue parce que je suis musulmane, ou on me rase les cheveux, on me brûle alors que je suis encore vivante. Et pour moi, ça m'a marqué, j'oublierai jamais ce voyage, jamais. Jamais, ça restera gravé en moi. En fait, je m'y attendais vraiment pas parce que je pensais que... Enfin, on avait travaillé sur les nazis, Hitler, etc., mais sans plus approfondir le sujet, quoi. Pas le fait qu'ils rasent leurs cheveux ou qu'ils tuent les personnes ou qu'ils tuent les femmes enceintes. Vous voyez, les esclaves sexuels, ça n'a pas été trop dans ce sujet-là. Non, ça a été juste, oui, ils les ont tués parce que c'était juif, c'est tout. Mais ils n'ont pas du tout raconté la torture.
Tu n'avais pas compris l'ampleur, en fait, du phénomène.
Du tout. Et ça a été un choc pour moi. Je le redis, j'en pleurais tout le temps le mot choc. C'est un choc et ça restera gravé en moi. J'ai toujours du mal à digérer. Peut-être... Je sais pas si ce que je vais dire c'est bête, mais en moi j'ai une haine. J'ai cette haine là envers ces personnes là, mais c'est trop tard quoi. C'est vraiment trop tard. Maintenant, je sais pas si les nazis existent toujours, mais elle est tournée contre ce genre de personnes. J'espère vraiment qu'il y aura plus ce genre d'actes, vraiment, qu'il y a plus ce genre d'insultes. Ou... Ce matin même, j'allais en cours de mathématiques et en s'asseyant et tout, ben il y avait une croix gammée. Et j'avais même pas capté, j'avais posé mes affaires et tout. Et là ensuite, j'ai dit, attends, madame. Elle me dit, oui, je dis, il y a une croix gammée là. Elle a regardé, j'ai dit, regarde, en plus, elle vient juste d'être dessinée. Après, la prof, elle a essayé de s'en rappeler qui était assis avant moi. Et du coup, je l'ai pris, j'ai dû la gommer. Honnêtement, c'est comme si on m'insultait, moi, même si je ne suis pas juif, mais c'est comme si moi-même on m'insultait parce que c'est. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens, ils ont tant de haine.
Je m'appelle Suzanne Nakache. Je suis née en Algérie. J'ai vécu à la limite d'un quartier arabe. Je suis donc juive. Je suis allée dans une école primaire avec des petites filles musulmanes. C'était mes copines. Et dans ma classe, il y avait des petites, ce qu'on appelait les européennes. Donc je jouais avec les petites européennes. Et j'étais bonne élève, donc tout se passait bien. Et puis un jour, dans la cour de l'école, tout le monde s'est arrêté de jouer avec moi. Pourquoi ? Je sais pas, puis elles chuchotaient, les unes chuchotaient entre elles. Je me sentais un peu une pestiférée, je sais pas ce qui se passait. Et puis finalement, il y en a une qui est venue vers moi et qui m'a dit, on veut pas jouer avec toi parce que tu as tué le Christ. Et il y avait des petites musulmanes autour qui ont vu ça et qui sont venues vers moi et qui m'ont dit, nous, on va jouer avec toi. Donc ça m'a beaucoup marqué. Donc c'est pour ça, je crois qu'il y a pas de, on peut pas généraliser. Je suis arrivée en France quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie en 62. J'avais 10 ans. Là, j'étais une rapatriée, mais je me suis adaptée. J'avais une pharmacie dans le 20e, clientèle composée de femmes musulmanes, de femmes juives et autres. Voilà, j'avais un petit peu tous les milieux, puisque j'étais près de ce qu'on appelle la campagne à Paris. Il y a eu pas mal de guerres, la guerre du Golfe, etc. Et les intifadas, tout le monde savait que j'étais juive. Et ça se passait très bien. Et puis j'ai vendu ma pharmacie en 2012. Et là, je me suis rendu compte que je n'allais plus évoluer dans ce milieu. Je n'allais plus rencontrer des femmes de ces conditions. Et ça m'a beaucoup perturbée. Donc j'ai cherché une association qui me permette de rester un petit peu en contact. Et j'ai trouvé, on m'a parlé du projet Aladdin, qui s'occupait de rapprochement juif-musulman. Donc je suis allée voir la présidente, qui s'appelait à l'époque Anne-Marie Revkolevski, et je lui ai dit que je voulais faire quelque chose sur le terrain, avec des femmes, mais vraiment sur le terrain, pas derrière un bureau et pas théorique. Donc elle m'a présenté Samia Essaba, qui était professeure d'anglais, qui travaillait, je crois, au Mémorial de la Shoah, qui faisait un très gros travail sur la mémoire, qui emmenait ses élèves à Auschwitz, etc. Donc elle nous a présenté, et puis bon, évidemment, ça a tout de suite fait tilt, et on a créé cette association de femmes. Donc on a fait un premier voyage à Auschwitz de femmes, on était 25, c'était en 2014. Alors, moi, je n'avais jamais pu aller à Auschwitz parce que c'était quelque chose qui me... Moi aussi, je suis séfarade, mais ça me touchait quand même personnellement. Et je n'y arrivais pas à y aller, j'avais très peur. Et c'est Samia qui m'a dit, tiens, tu vas venir avec moi. Et effectivement, je me suis rendu compte que le fait d'aller avec des femmes qui n'étaient pas simplement juives, c'était très, très important parce que j'avais l'impression qu'on était moins seul au monde, qu'il y avait d'autres femmes, d'autres religions, d'autres personnalités qui ressentaient aussi ce que nous avions ressenti. Donc pour moi, c'était très, très important. C'était un succès. On a vu l'importance donc des voyages de femmes. Donc on a continué, on a fait des rencontres littéraires, on a fait des conférences, on a fait un dîner de Shabbat dans une synagogue, ça marchait très bien. Donc on a organisé ce deuxième ou premier voyage de l'association en février 2018. Donc là, on était 70 femmes. Il y a des lycéennes, il y a des mères de famille, il y a des femmes PDG, il y a des femmes retraitées, des mères, des grands-mères, et des milieux sociaux différents aussi. Et des religions différentes, des femmes juives, chrétiennes, musulmanes, athées, laïques, voilà. Donc on s'est rendu compte que finalement, si nous on ne les faisait pas se rencontrer, elles ne pouvaient pas se rencontrer, c'était pas possible, parce que une lycéenne, c'est impossible qu'elle aille discuter avec une femme PDG ou DRH, etc. Et pour une DRH aussi, elle nous était très très reconnaissante de les avoir mises en relation avec ces jeunes filles, avec ces femmes, parce que finalement elles ne se rendaient absolument pas compte des problèmes. Ce que j'attends de l'après, c'est que on sait qu'actuellement il y a des discours antisémites au sein des familles. On le sait, on nous le dit, on l'entend. Dans la communauté aussi, dans la communauté juive, certaines personnes de mon entourage ne veulent pas entendre parler des Arabes. Donc et ça me gêne. Quand j'ai vendu, je suis allée dans une association qui s'appelle Parler en paix, où j'ai appris l'arabe. On apprend l'arabe et l'hébreu en même temps. Déjà, quand je disais que j'apprenais l'arabe, on me disait « mais tu te prépares », enfin, des bêtises comme ça. C'est le premier pas vers la conversion, enfin, c'est ridicule. Je leur disais « mais c'est ridicule, c'est parce qu'on est envahi des choses comme ça. » Et ça me gêne considérablement et on me voit un petit peu comme un ovni, parce qu'on me dit « mais ça sert à quoi ? Ils nous aiment pas ?» Bah oui, mais si on ne va pas au-devant d'eux, je crois qu'il faut arrêter la haine à un moment. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente, essayer de trouver un accord, et puis je suis sûre qu'on peut y arriver.
Je suis née à Bondy, j'ai grandi à Bondy. Pas ma famille, mais des gens que je connaissais un peu me disaient « ne fréquente pas les Juifs ». Ne fréquente pas les Juifs parce qu'ils sont pas bien, ils sont mauvais. Il y avait aussi des préjugés comme quoi les Juifs, ils étaient méchants, radins, des meurtriers et tout. Donc,
des meurtriers.
Ouais, donc voilà. Donc ça m'a. Je me disais, pourquoi vous dites ça? Ils ont dit, tu sais pas ce qu'ils ont fait à la Palestine, tu sais. Encore une fois, ils mélangent tout en fait, malheureusement. Et moi, quand j'étais petite, on va dire entre guillemets, on me lavait le cerveau. On peut dire ça comme ça. C'était des gens plus grands que moi. Il y avait des hommes, des femmes, ils avaient 25 ans, 30 ans. À l'époque, moi, je devais avoir 13 ans. Et la plupart du temps, tout le temps, on me disait « ne fréquente pas les Juifs ». T'es musulmane, tu fréquentes pas les Juifs. Ils disaient que les Palestiniens, c'est nos frères et sœurs. Regarde ce que ces Juifs-là leur ont fait. Je me disais « pourquoi ne pas y croire ?» Puisque ils ont plus d'expérience, ils sont plus grands que moi. Entre guillemets, on va dire, il y avait un respect. J'ai fini par y croire et je me suis dit que si eux, ils pensent ça, si... Enfin, certains musulmans pensent à des juifs. Les juifs pensent quoi de nous? Ils m'ont mis une barrière. Et je me suis mis une barrière. Du genre, ils vont jamais me parler parce que je suis musulmane. Et moi, je vais jamais leur parler parce que c'est des juifs. Jusqu'au jour où c'est devenu mes amis. Voilà quoi. À 17 ans, cette année là même, parce qu'on a, avec le lycée, on a organisé un projet. En fait, il y avait 15 Israéliens, 15 Palestiniens, 15 Marocains, une école juive et nous, les élèves d'une banlieue, quoi. Et en fait, ce projet a duré pendant une semaine. On allait tout le temps à Paris pour visiter, par exemple, l'Assemblée nationale, le Sénat, au concert d'Amir. Enfin, il y avait plusieurs lieux. Je suis jamais allée dans ce genre d'endroit. Je pensais que c'était que pour les personnes huppées, quoi. Et je suis allée et tout. Après, on a créé des liens. Et je me rappelle aussi Le premier jour, avec l'école juive, on a partagé le même quart. Et chacun était de son côté. Enfin, il y avait nous qui venaient d'un lycée et il y avait eux, l'école, ils étaient entre eux, ils rigolaient entre eux et tout. Moi, la première réflexion que j'ai faite, mais pourquoi ils nous parlent pas? Et il y avait une d'entre elles qui a commencé à chanter et moi, j'ai continué. Et c'est là où on a commencé et tout. Ah, bah vous venez d'où? Bah nous, on est une école de juifs et vous, bah nous, on est dans un lycée professionnel, dans 93, à Théodore et tout. Ah, bah nous aussi, on n'a pas vu en sous-bois, etc. Donc après, on a fait des connaissances, on a tous échangé nos réseaux sociaux et tout, on a commencé à parler, chanter ensemble. Je me rappelle le chauffeur, il nous disait, sortez tous, restez pas dans mon car, vous m'avez rendu la tête comme ça. Après, ça reste des bons souvenirs, quoi. Et aussi, ils étaient de même origine. La plupart, c'était des Marocains, Tunisiens, Algériens, ta 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 ta. Donc, en gros, c'était les mêmes origines que moi. Je me dis, ah, mais en fait, t'as les mêmes origines que moi, c'est juste qu'on n'a pas la même confession. Il me dit, voilà. Parce que moi, je pensais que le fait d'être, par exemple, Marocain, Tunisien, Algérien, bah, c'est que pour les musulmans. Sachant que non, en fait, tu peux être musulman, Marocain, Algérien, tu peux être juif, Marocain, Algérien, ou tu peux être aussi chrétien, Marocain, Algérien. Là, maintenant, moi, je peux dire que j'ai eu des souvenirs avec mes amis juifs. Parce qu'on a fait plein de choses et c'était bien.
Come, I'll take your hand. Don't be afraid to be afraid with me. Oh, come, we'll go somewhere. Not very far. We'll dance outside, we'll sleep under the stars. Come, we'll learn to see instead of looking. How to get free, we'll just be. Come, oh, 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 oh. No words I'll say, if that's okay. Just let me tell it one time. I wanna play with you, go through the rain with you.
C'était Langage de femme, deuxième volet, un reportage d'Alice Milo réalisé par Clémence Gros. Merci à Samia Essaba, à Suzanne Nakache, à Aude de Thuin, à Colette Cohen, à Ginette Colinka et à Sabrina. C'est Jeanne Delecroix et Camille Richir qui s'occupent de la production des Pieds sur Terre et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire. Je vous rappelle que Retour à Birkenau, les mémoires de Ginette Colinka, est un livre disponible à partir d'aujourd'hui et publié chez Grasset.
Come, we'll make mistakes, might feel the pain, but then we'll wash it in.